Je disais que je veux partager avec vous ce matin un message, toujours sur le thème de la destinée. C'est un message prophétique qu'on a partagé dernièrement dans les églises dans le sud de la France dont on s'occupe avec mon épouse. Et on sentait vraiment l'importance de le partager dans différents endroits, tellement il correspond à ces temps et tellement il correspond à la vie de nombreux enfants de Dieu. Parmi les paroles qui ont été données tout à l'heure, il y avait « être allégé ». Amen. Et c'est une parole que Dieu nous a donnée en ce début d'année. Nous voulons nous décharger pour être plus légers. Et quand on est plus léger, on monte plus haut. Parfois, quand on se décharge, on s'allège, à vue humaine, on a l'impression de régresser, n'est-ce pas? Mais pourtant, spirituellement parlant, on s'élève. Alors on sait qu'il faut se décharger du péché, se décharger de certaines choses qui nous oppressent. Mais à travers ce message, je veux expliquer qu'il y a des choses plus subtiles dont on est appelé à se décharger aussi. Ce message s'appelle « Mort et résurrection de nos rêves ». Vous avez remarqué qu'on ne parvient pas dans sa destinée à vivre ses rêves en ayant une totale réussite dans ce que nous faisons. Qui réussit de suite tout ce qu'il fait? Si c'est le cas, vous prierez pour moi tout à l'heure. Nous vivons dans un monde imparfait. Et Jésus lui-même, qui était parfait lorsqu'il est venu dans ce monde, eh bien, il n'y avait même pas de place à l'hôtellerie pour lui. Donc, il a été soumis à l'imperfection de ce monde. Amen. Donc, ce n'est pas étonnant que nous aussi, nous soyons soumis à cette imperfection et que nous ayons à nous y reprendre souvent plusieurs fois pour parvenir à vivre nos rêves, à parvenir à vivre les visions que Dieu a placées sur notre cœur, à parvenir à réussir notre destinée. C'est pourquoi si tu as échoué, eh bien la Bible dit « Sept fois le juste et il se relève. » Sept fois le juste tombe et il se relève. Amen. L'idée, c'est de ne pas rester allongé, c'est de se relever. Et à un moment donné, on va finir par arriver. L'imperfection fait partie de notre vie ici-bas. Et avoir accepté Jésus ne fait pas qu'on va dès lors vivre dans la dimension dans laquelle on vivra au ciel. Moi, je crois à la prospérité. Je crois que Dieu veut nous faire prospérer dans tous les domaines de notre vie, mais je ne crois pas à la prospérité facile. C'est pas vrai, la Bible dit « Celui qui sème avec larmes, il moissonnera avec chant d'allégresse ». Je ne crois pas à la prospérité qui réussit de suite. Je crois que c'est ceux qui payent un prix, amen, ce sont ceux qui persévèrent, ce sont les violents qui s'emparent des promesses du royaume de Dieu. Et nous ne sommes pas encore au ciel, même si nous croyons à la prospérité, n'essayons pas de vivre dans une dimension qui ne sera possible qu'au ciel. Au ciel, les rues sont pavées d'or. On ne va pas se mettre à paver le plancher de l'église d'or, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas encore la dimension dans laquelle on est appelé à vivre et on a vraiment autre chose à faire de notre argent que de paver le parterre d'or. Vous êtes d'accord avec moi? On a des âmes à sauver. Ici-bas, ça cogne. Nos réussites en sont à un prix. Il y a un principe qui nous est donné dans la Genèse au sujet de notre victoire contre l'adversité. Tu lui écraseras la tête et il te blessera au talon. Chaque fois que nous avons des victoires, nous sommes blessés quelque part. Moi, à chaque séminaire, je suis blessé. Amen. Simplement, Dieu est celui qui guérit et qui nous permet de nous relancer chaque fois dans un nouveau séminaire et dans de nouvelles aventures. Mais n'essayez pas de vivre vos victoires sans perdre quelques plumes. C'est normal de perdre quelques plumes. Tu lui écraseras la tête, mais il te blessera au talon. Ce qui est embêtant, c'est quand il t'écrase la tête et que tu le blesses au talon. Donc, on ne gagne pas sans perdre quelque chose. Et pour parvenir à vivre ses rêves les plus forts, écoutez bien, pour parvenir à vivre ses rêves les plus forts, il va falloir en perdre quelques autres sur le chemin. Je m'explique. Pour parvenir à vivre nos rêves prioritaires, il va falloir renoncer à quelques rêves secondaires. Parfois, nos rêves secondaires prennent tellement d'importance qu'on est confus dans nos priorités et ils prennent la place des rêves prioritaires. Vous allez comprendre ce que je veux dire au fur et à mesure du développement de ce message. Ça fait toujours mal de renoncer à un rêve. J'ai réfléchi sur ces choses quand je me suis trouvé un jour devant le fait de devoir, si je peux dire, achever moi-même certains de mes rêves. Mais j'ai réalisé que parfois il faut tuer certains de ces rêves pour ne pas être tué par eux. Et à cette époque, je ressentais le besoin d'en finir une bonne fois avec certains projets qui d'un côté ne tenaient plus la route, dans le nouveau contexte dans lequel je me trouvais, et d'un autre côté, ils avaient encore trop de place dans mon cœur. Ils étaient encore trop vivants. Et la souffrance que produisait le fait de n'avoir pas pu vivre ces rêves pleinement était trop présente en moi. Et lorsque j'ai réfléchi à tout cela, il m'est venu une image. Vous savez que Dieu est un Dieu qui parle ? Il nous parle par des images, et si on lui demande de nous expliquer les choses, il va nous les expliquer. Il va nous les expliquer à travers des choses très simples parfois. Et là, je me suis mis à penser à ces cow-boys, vous savez, qu'on voit dans les films. Vous avez un cow-boy à cheval, il galope vers un but, il va presque arriver. Il traverse le désert, voilà que le cheval, il se casse la patte. Il est complètement épuisé, déshydraté au milieu du désert. Et il s'arrête et il commence à agoniser. Vous voyez l'image, hein? Vous avez déjà vu des westerns? Vous ne les regardez plus depuis que vous êtes converti, vous êtes trop sain. Le cow-boy, il est embêté là, parce qu'il se trouve alors devant un dilemme. Il sait qu'il faut abattre le cheval pour deux raisons. Afin que l'animal, déjà, il ne souffre plus. Afin qu'il ne souffre pas une longue agonie, parce qu'il va mourir quand même. Il le faut aussi pour que lui, le cow-boy, puisse se remettre en route, même si c'est à pied, pour réussir sa destinée. S'il reste près de son cheval, il ne va pas l'empêcher de mourir de toute façon pour autant. Et s'il reste près de son cheval, il va mourir avec lui. Mais bien sûr, on peut dire, ah, si c'était si facile, la décision, il la prendrait de suite. Mais il est lié à ce cheval par plusieurs choses. L'affection, la collaboration qu'ils ont eue pendant des années, les souvenirs. Il y a tout un potentiel affectif. Et moi, je me rends compte que le diable, il joue beaucoup plus que ce qu'on imagine avec le potentiel affectif pour nous faire rater notre destinée. Il y a tout un potentiel affectif qui joue et qui risque d'amener notre homme à ne pas trouver la force de tuer le cheval. Je crois que beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu meurent avec leur cheval dans leur désert. Hein, parce qu'ils ne trouvent pas la force de caractère pour tuer certains de leurs rêves. Alors je sais qu'au départ ça paraît négatif comme un message, mais attendez la deuxième partie avant de sortir. Hein. Tout s'arrange à la fin. Nous passons tous par quelques déserts dans nos vies où ce que nous affectionnons peut être aussi ce qui va nous détruire si nous ne savons pas nous en détacher. Ça me rappelle l'histoire d'un homme qui avait vécu un naufrage et lorsque le bateau s'est mis à couler, il s'est jeté à l'eau mais pas sans récupérer des lingots d'or qu'il avait dans sa chambre qu'il a attachés autour de sa ceinture. Mais quand il s'est retrouvé dans l'eau, le poids des lingots l'entraînait vers le fond. Il avait juste quelques secondes ou fractions de secondes pour décider s'il allait accepter de se débarrasser de ces lingots d'or qu'il affectionnait, amen, ou s'il allait essayer de sauver sa vie. Et je crois que beaucoup de gens se sont tellement attachés au lieu de s'attacher à Christ, ils se sont attachés à la vision que Christ leur a donnée, que souvent ils coulent avec la vision. Nous croyons à la guérison divine, nous croyons à la prospérité, mais avant tout, ce que nous recherchons, ce n'est pas la guérison divine ou la prospérité, c'est le Dieu de la guérison et c'est le Dieu de la prospérité. Laisser les lingots, c'était renoncer au projet qu'il avait décidé d'accomplir avec ces lingots. Quand on s'allège, qu'est-ce qui se passe? On s'élève. Et on ne s'élève pas dans la vie sans s'alléger régulièrement. On ne s'allège pas sans lâcher des choses qu'au départ on a du mal à lâcher. Parce que le diable s'est assuré pendant des années que ça va nous coûter quelque chose. D'ailleurs, Dieu prend plaisir à ce que ça nous coûte quelque chose. On juge de l'amour qu'on a pour les gens en fonction des choses qu'on fait pour eux qui nous coûtent. Personnellement, j'ai dû décider d'abattre un rêve à une époque que j'avais pour pouvoir me propulser plus loin. Ce rêve avait engendré une situation qui créait de la souffrance. Et puis y renoncer, ça m'a fait perdre la face un peu. Ça m'a immobilisé un moment aussi. Ce rêve, il m'avait placé dans un mode d'attente comme ce cow-boy dans le désert qui, au lieu de voir guérir et se relever son cheval blessé, à force d'insister, vous savez. Parfois, on essaie de ressusciter un cadavre. Il constate sa lente agonie. On essaie de ressusciter des choses que Dieu ne veut pas ressusciter. Et il se demande au bout d'un moment s'il n'est pas en train d'agoniser avec lui. Mais un matin, je me suis levé et pff, j'ai flingué le cheval. Comment j'ai fait? J'ai renoncé à ce rêve qui était devenu un poids pour ma vie. Amen. Vous savez qu'un rêve qui a commencé dans le plan de Dieu, ça peut, à cause de certains événements qui arrivent en cours de route, qui contrecarrent le plan de Dieu, ça peut devenir un cauchemar. Et quand ça devient un cauchemar, c'est plus la vision que Dieu vous a donnée au départ. Est-ce que vous me suivez? Mais nous, on a ce raisonnement, si c'était le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu jusqu'au bout. La Bible est remplie de plans de Dieu qui ont avorté, à commencer par la première page de la Genèse, lorsque Dieu est mis sur la terre, l'homme et la femme qu'il a créés. Vous croyez qu'il les a créés pour qu'ils chutent, pour qu'ils pêchent? Dieu, il avait un merveilleux plan pour eux. Et Dieu, il était dans le plan de Dieu lorsqu'il les a placés dans le jardin. Vous ne croyez pas? Et pourtant, là, nous avons un plan de Dieu qui a foiré. Et c'est ce qui nous déstabilise parfois. Lorsque nous savons que Dieu nous a donné une vision et que cette vision n'arrive pas à s'accomplir, et là, on a tendance à s'y accrocher jusqu'au bout et à couler avec elle, parce qu'on a ce raisonnement très évangélique, si c'est de Dieu au départ, ça ne peut pas se transformer. Eh bien oui, ça peut se transformer. Et quand ça s'est transformé, parfois il faut savoir le lâcher, je vais y revenir tout à l'heure, pour que Dieu puisse le ressusciter plus tard. Je me souviens, c'était à la mer. Je sortais de l'eau en priant Dieu, et Dieu me parle à la mer. Et l'histoire de ce cow-boy et son cheval me sont venues, et c'est comme si le Seigneur me disait, en tuant le rêve, tu vas non seulement te libérer, mais libérer les gens autour de toi aussi. Et tu vas aussi libérer une nouvelle saison, une nouvelle vision. Vous avez remarqué que quand on devient obsédé par quelque chose, on devient difficile à vivre pour les autres. Et on leur fait porter nos souffrances. Alors quand on renonce à certains de nos rêves, on se libère, mais on libère aussi les autres. On peut libérer sa femme, ses enfants et toute son équipe. Il y a des connaisseurs ici. Et puis d'un coup, je me suis senti bien. Parce que de ce fait, je n'avais plus à gérer ce point. Et mon esprit était libre pour me remettre en marche dans ce qui est le plus important dans ma vision. Qu'est-ce que je veux dire par des visions prioritaires et des visions secondaires? Par exemple, un groupe musical, c'est une vision que Dieu vous donne. Pour accomplir une vision plus importante qu'avoir un groupe musical, c'est d'apporter au Seigneur une louange qui lui soit agréable. Amen. Mais on peut tellement se concentrer sur l'unité du groupe musical, les gens avec qui on s'est engagé, qui vont rester à vie à nos côtés, que le jour où il y en a qui font défection, on est complètement déstabilisé, parce qu'on a perdu de vue que la vision principale, c'est pas d'avoir un super groupe musical, c'est d'apporter au Seigneur une louange en esprit et en vérité qui lui soit agréable. Est-ce que vous me suivez? Donc, nos visions secondaires, parfois, prennent trop d'importance et prennent le pas sur nos visions prioritaires. Et alors là, le Seigneur permet que ces visions disparaissent. Hello? Et quand le rêve ne correspond plus à ce qu'il était au départ, voire devient un cauchemar, il n'est déjà plus le rêve du départ. À quoi bon s'y accrocher? Vous avez marié quelqu'un qui était fantastique, et quand vous vous êtes marié avec lui, il s'est laissé détourner de Dieu. Il devient pire qu'un inconverti. Vous n'allez pas passer votre vie avec, j'espère. C'est ce que vous enseigneront certains pasteurs, mais pas moi, parce que Dieu est venu libérer les captifs. Ceux qui sont à l'extérieur de l'église et ceux qui sont à l'intérieur de l'église. Et je vais vous dire une chose, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, c'est tous les captifs qui veulent bien être libérés qui seront libérés. Donc ceux qui oppressent les autres sont en mauvaise posture dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui libère. Amen. Donc il y a un principe biblique à bien comprendre, sur lequel je vais insister, c'est que tout ce qui meurt et qui était dans le plan de Dieu, si nous adoptons la bonne attitude, c'est destiné à ressusciter. Donc il vaut mieux perdre, tailler dans quelque chose pour que ça refleurisse mieux après. Simplement, il faut que certaines choses meurent pour pouvoir ressusciter, parce que Dieu ressuscite les morts. Et souvent, c'est nous qui devons tuer ce qui doit mourir. Parce que souvent, elles sont déjà mortes, ces choses, dans l'esprit de Dieu. Mais il faut l'accepter à notre tour, et faire notre part, pour ne pas prolonger l'agonie. Vous saisissez la nuance? Pour une raison ou une autre, des choses originellement engendrées par Dieu pourrissent, dégénèrent. À un certain stade, les choses sont allées trop loin pour que Dieu les rattrape. Et je dirais même qu'en fait, il ne veut plus les rattraper. Parfois, nous voulons rattraper des choses que Dieu ne veut plus rattraper. Il préfère les laisser mourir, mais pas parce que Dieu, il est pessimiste. Il veut les laisser mourir pour les ressusciter plus tard et différemment. Et plus je traîne à les tuer, plus je traîne à voir une résurrection. Et plus je peux me priver de ma résurrection. C'est ce qui est important de comprendre. Dieu ressuscite ceux qui meurent, si on lui permet de le faire. Mais lorsqu'une chose ressuscite, deuxième point, elle ne ressuscite pas exactement comme elle était auparavant. Ce principe nous est expliqué dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Quelqu'un dira, comment les morts se réveillent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Et Paul dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alors on peut se dire, voilà, j'ai perdu quelque chose, un rêve merveilleux, Dieu va le ressusciter, et puis à la place de ce grand rêve, il va me donner un petit rêve rabougri, bon, je vais faire avec. Non, le principe de la résurrection, c'est que les choses qui sont mortes ne ressuscitent pas pour être inférieures à ce qu'elles étaient lorsqu'elles sont mortes, mais pour être supérieures. Simplement, elles changent de forme. Tu n'auras peut-être pas les mêmes équipiers, tu n'auras peut-être pas la même forme d'église, tu n'auras peut-être pas la même forme de ministère, mais tu n'auras rien perdu, parce que ça va être supérieur et tu vas porter plus de fruits. Amen. C'est pour ça qu'on doit venir à l'église, pour entendre des messages qui nous tirent vers le haut. Quand ça nous tire vers le bas, il faut arrêter de venir. La Bible dit « exhortez-vous les uns les autres ». S'exhorter signifie se tirer vers le haut les uns les autres. Vous croyez que dans ce monde, on n'a pas assez de raison d'être tiré vers le bas pour venir encore à l'église et être tiré vers le bas? Moi, je m'entoure de gens qui me tirent vers le haut. Alléluia! Gloire à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu pour ma femme. Elle est toujours en train de me tirer vers le haut. Alléluia! Même quand la braguette descend, elle vient me faire remarquer qu'il faut que ça remonte. Alléluia! Bon, on vous remercie parce qu'on est dans la liberté ici. Je ne me permettrai pas ça dans d'autres lieux. Aujourd'hui, mes deux rêves sont ressuscités. Les deux rêves que j'ai tués à l'époque sont ressuscités. Pas sous la même forme, pas avec la même structure, pas avec toutes les mêmes personnes, mais d'une manière supérieure et bien plus glorieuse à ce que j'avais semé et à ce que j'ai perdu. Alléluia. Il y a un principe dans ce monde, c'est le principe de la transformation. C'est-à-dire qu'il existe une loi naturelle et spirituelle, démontrée par les scientifiques, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Lorsqu'une énergie disparaît, on dit, elle disparaît pas vraiment, elle se transforme. De même, tout ce qui semble disparaître ne disparaît pas vraiment, ça continue à exister quelque part. Il y a tellement de puissance dans les choses auxquelles Dieu donne vie que même lorsque ces choses meurent, comme on le dit dans notre langage humain, elles continuent à vivre. C'est pourquoi le méchant, il ne peut pas être détruit parce qu'il ne peut plus mourir. Il est obligé d'aller en enfer. Parce qu'il y a tellement de puissance de vie en Dieu que tout ce à quoi il a donné la vie ne peut plus disparaître. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous faites chauffer de l'eau, une partie de celle-ci se transforme en vapeur, une autre en gaz invisible. Si vous récupérez l'eau qui reste, après l'avoir fait chauffer, vous récupérez la vapeur, vous récupérez le gaz, et vous les pesez, vous obtenez le même poids que l'eau du départ. Ça s'était transformé. Mais quand vous récupérez tout ce qui s'est transformé, vous avez exactement le même poids qu'au départ. Si une ville entière qui a été détruite sous les bombardements, qui a été brûlée, bien de cette ville, vous récupérez les cendres, plus toute la fumée et les gaz produits par la destruction, vous aurez le même poids que la ville avant sa destruction. Le principe de la mort et de la résurrection, comme on l'entend souvent, dans le sens que ce qui est mort et détruit n'existe plus, et retourne néant, est faux. Pour Dieu, le néant n'existe pas. C'est pourquoi lorsque nous disons de quelqu'un qu'il est mort, pour lui, il continue à vivre. Pour lui, Abraham, il était toujours vivant. Tout subsiste, simplement ça se transforme. Donc lorsque vous êtes confronté à une mauvaise passe où vous avez l'impression que vous perdez vos rêves, parfois la dernière chose que vous devez faire, c'est vous accrocher à ces rêves. C'est de les laisser mourir provisoirement pour permettre à Dieu de les ressusciter. Alléluia. De toute façon, si ces rêves sont devenus des cauchemars, c'est qu'il s'est passé certaines choses, que certains facteurs sont intervenus sur le chemin de votre destinée pour qu'il y ait une mauvaise transformation, là, une transformation dans le mauvais sens. Donc il vaut mieux abattre ce mauvais rêve pour permettre à Dieu de le retransformer dans le bon sens. Alléluia. Et en ce début d'année 2007, moi je vous encourage à pas seulement analyser les éventuels péchés dont vous devriez vous décharger, amen, parce que ça, tous les chrétiens le savent. Le diable arrive à nous avoir par des choses plus subtiles. Il arrive à nous avoir par des choses qui au départ concernent le service de Dieu. Et parce que ça concerne le service de Dieu, on est parfois prêt à crouler avec ces choses. Moi je suis prêt à mourir pour la vision que Dieu me donne, mais je ne suis pas prêt à mourir écrasé par la vision que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous voyez la différence? Je suis prêt à mourir pour ces séminaires là qu'on a démarrés, pour l'équipe avec laquelle nous fonctionnons. Amen. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, réussir sa destinée, c'est arriver à vivre dans sa destinée et à mourir dans sa destinée aussi. Ce qui caractérisait les premiers disciples, c'est qu'ils étaient autant prêts à vivre qu'à mourir. Amen. Donc parfois, nous critiquons les chrétiens d'église traditionnelle, etc. Mais on a besoin, dans nos milieux charismatiques, de redécouvrir la notion de sacrifice un peu. Amen. On panique pour rien aujourd'hui. Oh là là. Les premiers disciples, on les battait de verre, j'y revenais tout heureux d'avoir été frappé à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons tellement de chrétiens bobo maman au milieu de nous. On a besoin que se lève un peuple composé de personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour ce qu'elles croient. Lorsque vous êtes prêts à mourir pour ce que vous croyez, le diable ne peut plus vous arrêter. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que vous tuer? Amen. Bon, alors... Peut-être pas tous appelés à ça. Quoi qu'on peut donner quelques prophéties, mais... Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole, de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ça fait partie du même verset. Alléluia. Donc Dieu veut transformer, je vais terminer, nos visions avortées. Si nous sommes à son écoute, il les ressuscitera. Il montrera quand s'en débarrasser et quand les retrouver. Avec lui, nous retrouvons les rêves que l'on a tués pour l'intérêt de la vision principale, réussir sa destinée et arriver au bout de sa destinée. Amen. On peut avoir un exemple biblique à donner, le royaume d'Israël était au départ composé de 12 tribus, c'était le plan initial de Dieu. Ce royaume, après la division du royaume de Salomon, s'est retrouvé partagé en deux, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc les 12 tribus de Salomon se sont retrouvées décomposées à l'époque de Salomon, se sont retrouvées décomposées en 10 tribus d'un côté et 2 d'un autre. Première transformation. Par la suite, face au dérèglement de son peuple, donc c'était pas Dieu qui rentrait en ligne de compte, ce sont souvent ce que font les hommes, alléluia, qui sont des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Nous, parfois, on dit, il s'est converti, donc jusqu'au bout, c'est bon. La Bible dit non, si tu persévères jusqu'à la fin, amen. On dit, c'est un couple formé par Dieu, donc ça va marcher jusqu'au bout. Non, si tu fais ce qu'il faut sur le chemin pour que ça marche jusqu'au bout, ça marchera jusqu'au bout. Formé par Dieu ou pas formé par Dieu, si tu fais pas ce qu'il faut, si tu respectes pas les clauses de l'alliance, eh bien, tu perdras le merveilleux conjoint que Dieu t'a donné, amen. Alléluia, la Bible dit que si tu maries, si tu sauveras ta femme, et femme, si tu sauveras ton mari. Chaque jour, nous nous levons et nous devons confirmer les choix que nous avons faits dans le passé. C'est pourquoi on ne peut pas vivre avec l'onction d'hier, on ne peut pas vivre avec le réveil d'hier. Ce qu'il nous faut, c'est l'onction d'aujourd'hui. C'est le réveil d'aujourd'hui, alléluia. C'est la compréhension de ce que Dieu fait aujourd'hui, qui souvent est très différent de ce qu'il a fait hier. Ce que Dieu a béni hier n'est pas obligatoirement ce qu'il va bénir aujourd'hui. Si je m'accroche avec les formes d'hier sous prétexte qu'elles ont été bénies hier, alléluia, je risque d'être détruit aujourd'hui par les mêmes formes. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Alors Dieu a tué plusieurs de ses rêves. Il a tué le rêve d'avoir un peuple saint, puisqu'il a dit à un moment donné au sujet de son peuple, « Mon nom est blasphémé parmi les nations à cause de vous. » Il a perdu le rêve d'un peuple sur une terre, d'un peuple qui sanctifierait son nom, qui toucherait les nations, mais il a ressuscité chacune de ses visions, et chacune vit un processus de résurrection, de transformation, qui n'est pas encore parvenu à sa fin aujourd'hui. Chacune de ces visions est ressortie de terre, Israël est ressorti de terre, l'Église est composée d'hommes et de femmes de toutes les nations, Dieu a un peuple aujourd'hui composé de fils et de filles, alléluia, et le meilleur est devant nous. Parfois on regarde l'Église, on peut être comparable à Ézéchiel lorsque le Seigneur lui a dit « Regarde ce cimetière, cette vallée des ossements », et il lui a posé la question « Est-ce que ces os pourront revivre ?» Et Ézéchiel, il n'a pas osé se mouiller. Ben, c'est toi qui sais, Seigneur. Hein? Et parfois, nous aussi, on peut regarder autour de nous, spécialement dans les milieux francophones aujourd'hui, et se dire, mais est-ce qu'il va se lever un peuple glorieux, une église glorieuse? Est-ce que c'est possible? On se fait du cinéma. Et comme à Ézéchiel, le Seigneur, il nous dit, écoute, change ton regard et commence à changer ton langage. Moi, j'en ai assez des gens qui parlent toujours contre l'église. Alléluia. Toujours contre les serviteurs de Dieu. Toujours contre l'un et contre l'autre. C'est pas comme ça qu'on aide les gens à changer. Vous avez déjà essayé de changer votre mari ou votre femme en mettant toujours le doigt sur ce qu'il fait ou ce qu'elle fait de travers? Impossible. Il y a des connaisseurs ici. Au lieu de vous améliorer, vous empirez. Quand quelqu'un est toujours là en train de te dire « Tu mets toujours ça là et il faut le mettre là », au bout d'un moment, rien que pour l'ennuyer, vous le mettez là. Amen. Et Dieu nous dit « Comment ça ?» Avoir un langage différent sur l'Église. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Dieu le sait, mais moi je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas tous les adultères, tous les malentendus, tous les mensonges, toutes les chutes, tous les vols qui ont pu avoir lieu dans l'Église qui vont empêcher Jésus d'avoir une Église glorieuse dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Alléluia. Parce qu'il a la faculté de l'amener à devenir ce qu'elle doit être. Alléluia. Et comme dans son plan, je le dis, je crois, à chaque séminaire, tellement c'est important de réaliser cela, comme dans son plan, Jésus a toujours prévu de venir chercher son Église, amen, c'est qu'une partie de l'Église va donc devenir glorieuse. Amen. Alors je ne dis pas toute l'Église, mais l'essentiel c'est de faire partie de la partie glorieuse. Chacun de nous doit rendre des comptes pour lui. Amen. Ce n'est pas parce que mes parents se détournent du Seigneur que j'ai l'excuse de me détourner du Seigneur. Ce n'est pas parce que mon pasteur se détourne du Seigneur que j'ai l'excuse de couler avec lui. Amen. Ce qui m'importe, moi, c'est de faire partie de cette Église glorieuse, et ça dépasse le cadre des dénominations et des titres, que Dieu va se lever, cette armée puissante, dans ces temps pour glorifier son nom. Amen. Et pour faire une démonstration d'esprit et de puissance et à l'apogée de ce grand réveil, je crois que Jésus viendra chercher son Église. Donc ce n'est pas le temps de cesser de croire en l'Église, parce que si Jésus y croit toujours, qui suis-je moi pour ne plus y croire? Vous avez reçu un fax, vous, un email de la part de Jésus, disant « J'ai changé mes projets, dit le Seigneur, j'ai vraiment du mal à vous supporter, dit l'Éternel maintenant, et j'ai plus l'intention de revenir, débrouillez-vous sans moi. » Moi, j'ai pas reçu de mail. Moi, j'ai la parole de Dieu. Elle dit toujours la même chose. Et Dieu ne change pas un iota, ni un trait de lettre. Alléluia. Mais je sais aussi que Jésus ne vient pas chercher une église rabougrie. Il vient chercher une église qui s'est préparée, qui est glorieuse, qui a redécouvert l'exercice des saints ministères dans la complémentarité, des dons de l'esprit. Alléluia. Où les gens ont compris qu'ils ont une destinée. Wouh! Dont le meilleur est devant nous. J'ai pas le temps pour la dépression. Amen. Vous savez, le diable, il faut qu'il tombe sur des chrétiens qui lui donnent des soucis à lui. C'est au démon de faire de la dépression. C'est pas à nous. Amen. C'est pas à nous de dire comment est-ce que le diable va réussir à m'avoir la prochaine fois. Non, c'est à lui de dire je me demande comment ce chrétien va m'avoir la prochaine fois. Ça, c'est l'église glorieuse qui se lève. Alléluia. Et je suis assez fou pour croire là-dedans. Amen. J'ai épousé une femme aussi folle que moi. Je me suis assuré avant de l'épouser qu'elle était aussi atteinte. Et parfois, elle est plus seule. Ça, c'est bizarre. Alléluia. En marchant sur les traces de notre Père, lorsqu'il est confronté à une déception, il s'est renoncé à une vision pour mieux la voir ressuscitée. Il peut la laisser mourir pour la retrouver transformée. Il y a une vérité qui est exprimée dans ce message qui, je crois, peut soulager beaucoup d'enfants de Dieu, voire déculpabiliser. Et les aider à la fois à renoncer sans renoncer, tout en sauvant leur peau, permettez-moi l'expression, face à certaines situations. Est-ce qu'on peut lever nos mains tous ensemble? Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. On ne va pas faire.